Zantere puer Joer schwätzen viel Leid iwwer Digitalisierung an, wéi den séiere Wandel sech op d'Arbechtsfeld auswirkt. Ein Thema, dat hextwahrscheinlich auch am Wahlkampf eng grouss Roll wird spielen. Brauch eis Gesellschaft neid Verständnis vun der Arbecht. Ein Witte beim Maxi Pesch aus den Soziolog Franz Clement, den sech op der Uni Lützeburg mit diesen Themen beschäftigt.
Franz Clement, guten Morgen.
Guten Morgen.
Donc peut-être on peut commencer avec une question plus générale pour définir un peu le cadre. Donc est-ce que notre société doit aujourd'hui penser le travail différemment ?
Alors je pense qu'elle a toujours dû le faire. Je vais d'ailleurs vous répondre par une anecdote qui remonte à il y a 5 siècles d'ici. Au XVIe siècle en Angleterre, un certain William Lee avait inventé une machine à tricoter des bas et des chaussettes. Et à l'époque, il fallait passer par le pouvoir royal pour commercialiser ses inventions. Il est allé trouver la reine Elisabeth d'Angleterre qui lui a dit « Écoutez, votre machine est très intéressante, mais je ne vous autorise pas à la commercialiser parce que si je le fais, les couturières en Angleterre n'auront plus de travail. » Eh bien, cette interrogation, cette réflexion, on se la fait encore exactement 5 siècles plus tard, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours eu peur, en quelque sorte, d'arriver à une fin du travail qui ne s'est jamais vérifié jusqu'à maintenant. Au contraire, on a vu que le travail a évolué, mais qui n'a jamais été terminé.
Donc il y a toujours eu un processus de changement. Maintenant, j'avais lu dans une interview avec le Vork que vous avez donné, vous avez dit que le changement démographique et la digitalisation s'opposent et que le processus d'accélération est dramatique. Pourquoi maintenant, quand vous dites qu'il y a toujours eu ce processus de changement, pourquoi il est dramatique aujourd'hui ?
Alors, je pense en effet, disons, que le changement, le progrès ne sont pas dramatiques en eux-mêmes. Des changements, des progrès, on en a toujours connu depuis les débuts de l'humanité, avec parfois des régressions comme au Moyen-Âge par rapport à l'Antiquité, mais globalement, je vais dire, on a toujours connu le progrès. Ce qui est beaucoup plus interpellant aujourd'hui, c'est l'accélération du rythme du progrès. C'est ça beaucoup qui fait peur, je crois, aujourd'hui. Le progrès était beaucoup plus lent avant. Aujourd'hui, prenons un exemple, si nous sommes le 2 août 2018, si vous achetez un téléphone portable, dans un an, si on se revoit le 2 août 2019, on vous dira, mais cet appareil est complètement démodé. Vous devez absolument le changer. Donc il y a une accélération terrible du progrès qui fait que l'on doit aussi, je vais dire, s'adapter à cette accélération.
Mais si par exemple, maintenant on prend l'exemple avec le téléphone, ça c'est pas vraiment une innovation. Donc l'innovation, un téléphone, c'est peut-être l'innovation, mais s'il y a un nouveau, on sait déjà les bases, non ? Donc l'innovation a toujours eu besoin du temps pour être vraiment efficace. C'est aussi maintenant le cas, non ?
Oui, tout à fait. Le problème, disons, c'est que l'accélération du progrès, l'accélération de l'innovation a pour corollaire que vous devez presque vous former en permanence à ces évolutions. Vous aviez par exemple dans le temps, lorsqu'on a inventé les ordinateurs dans les années 60, je dirais vous aviez une formation de base que vous pouviez utiliser pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec l'accélération du progrès, la modification des conceptions de l'informatique et d'autres choses, vous êtes quasi obligé de vous former en permanence au jour le jour pour pouvoir suivre cette évolution. Et c'est ça qui va bouleverser, je vais dire, non seulement le quotidien des gens, mais aussi les programmes de formation à l'avenir.
Oui, donc voilà, on parle beaucoup de formation professionnelle. La formation, elle est bonne, mais est-ce que c'est pas aussi important d'apprendre pour bien s'adapter, d'apprendre une pensée beaucoup plus conceptuel, donc créatif, une pensée où on apprend les bases pour se former en permanence, plutôt que des formations ponctuelles sur des changements.
Oui, il est, je crois absolument clair qu'il y a un métier en particulier qui va devenir extrêmement difficile dans les années à venir, et ça dans le monde entier, c'est ministre de l'Éducation. Parce que là, on va devoir gérer des nouveaux programmes qui vont être des adaptations à des formations à la société et des formations à des nouveaux métiers dont on s'accorde à dire qu'on ne les connaît pas encore. Plusieurs études, notamment qui ont été faites aux États-Unis ou à Oxford, disent que d'ici 20 ans ou 25 ans, on connaîtra un grand nombre de nouveaux métiers, mais qu'on ne les connaît pas encore. Alors je vais dire, on va devoir presque se transformer en devin ou en...
Mais ça, c'était déjà avant, non? Dans les années 60, on ne savait pas non plus quel emploi, quels nouveaux emplois vont être dans les années 80, par exemple.
Oui, sans doute, mais disons, ils étaient davantage liés entre eux, à nouveau à cause du rythme du progrès. Si bien que les programmes de formation dans les écoles ou dans la formation continue pouvaient, je vais dire, être adaptés au fur et à mesure. Ici, l'accélération fait en sorte qu'on va vraiment faire un saut dans l'inconnu. Dans le temps, on faisait un saut, je vais dire, dans ce qui était encore plus ou moins prévisible, plus ou moins envisageable. Je vais prendre un exemple. J'ai été stupéfait de voir récemment à la télévision un robot pizzaiolo. C'est-à-dire que vous rentrez dans un genre de restaurant où vous poussez sur un bouton. Le robot, c'est absolument hallucinant à voir, vous prépare une pizza selon vos goûts, la met dans le four, la ressort, la met dans une boîte si vous voulez l'emporter. Et tout ceci, je vais dire, c'est le signe d'une accélération extrêmement claire et d'un changement même global de la société.
Donc là, vous avez parlé du robot. Le robot, c'est aussi un mot-clé, un peu. Donc les gens, ils ont toujours, depuis des années, ils ont peur que les robots, ils vont détruire les emplois. Mais je pense que maintenant, ça se nuance un peu, non? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, est-ce que les emplois, ils vont disparaître pour les gens, pour les vrais gens?
Non, je ne le crois pas. Ils vont sans doute se modifier, ils vont changer, mais il y a des choses pour lesquelles, jusqu'à présent en tout cas, on ne va pas remplacer une intervention humaine. Je vais vous donner un exemple très simple. Depuis plusieurs années, on voit se développer dans les supermarchés des caisses électroniques où vous scannez vous-même vos achats. C'est très bien, ça fait des caissières en moins, mais observez bien, vous avez quand même toujours une caissière qui surveille l'ensemble de ces opérations pour voir s'il n'y a pas à un moment donné une panne ou des personnes qui ne savent pas s'en sortir. Ça veut dire que inventer la machine, créer la machine, c'est une excellente chose, mais la machine n'est pas infaillible non plus. Elle peut très bien connaître une panne. Il y a même des exemples beaucoup plus importants que cela. On a par exemple réussi récemment dans un hôpital universitaire suisse à Berne à faire une implantation à travers la boîte crânienne d'une sonde uniquement par robot. Mais il y avait quand même toujours un médecin derrière le robot pour surveiller l'opération au cas où le patient ferait un emballement cardiaque, un malaise ou quelque chose. Donc la machine, je vais dire, elle va faciliter les choses, mais elle ne va pas totalement ni complètement remplacer l'intervention humaine.
Oui, donc c'est pas très différent de l'industrialisation qu'il y avait avant, où il y avait aussi la machine qui a pris les emplois plus faciles. C'est quoi la différence aujourd'hui?
La différence, disons encore une fois, c'est que, disons, la machine a toujours existé, elle a toujours facilité les choses et elle a permis finalement à l'être humain de faire d'autres choses. Donc on va sans doute se diriger vers des fonctions radicalement différentes des personnes dans le futur. Maintenant, je pense aussi que il y a des choses que tant que l'être humain sera l'être humain, qui seront irremplaçables. Dans certaines études qui sont faites, je pense notamment à une étude qui a été mise en ligne par la BBC et qui vient de l'université d'Oxford, où on fait la liste de métiers qui risquent de disparaître et celles de métiers qui ne disparaîtront pas, on remarque quand même que ces métiers qui ne disparaîtront pas ne vont justement pas disparaître parce qu'ils ont besoin de l'intelligence humaine et de la créativité humaine. Je pense par exemple à la fonction de chercheur scientifique. Parce que finalement, le robot, la machine ne sont possibles, leur existence n'est réelle, n'est avérée que s'il y a une intelligence humaine derrière pour la faire fonctionner. L'homme ne sera véritablement hors course que quand il aura permis, si c'est possible un jour, à la machine de réfléchir à sa place, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment.
Je voulais encore parler d'un cas plus précis, donc le télétravail. La semaine dernière, le ministre de la fonction publique a présenté un projet pilote pour le télétravail. C'était pour les fonctionnaires ici au Luxembourg, mais aussi la plupart des partis politiques et en premier aussi le ministre Étienne Schneider. Ils veulent favoriser cette pratique aussi pour les frontaliers. Donc, pour vous, le télétravail, c'est quoi votre opinion là-dessus?
Je pense qu'il est urgent de le développer. Pourquoi ? Parce que le travail a des conséquences en matière de mobilité, et particulièrement dans un pays comme le Grand-Duché, qui accueille presque 200 000 travailleurs frontaliers tous les jours. J'ai quitté mon domicile à Martelange à 6 heures du matin pour venir dans vos studios aujourd'hui. À 6 heures et demie, il y avait déjà des embouteillages et des blocages à hauteur de Capellen sur l'autoroute, ce qui n'existait pas il y a encore 5, 6, 7 ans d'ici. Donc il est urgent absolument de développer des méthodes qui vont stopper justement cet engorgement qui devient absolument invivable à tout point de vue, au point de vue, je vais dire, du travail humain, au point de vue des horaires humains, au point de vue de la pollution de l'environnement. Le problème, c'est qu'il y a des règles fiscales et sociales qui, pour le moment, empêche ou en tout cas limite très fortement l'utilisation du télétravail par les frontaliers. Et je pense qu'il faut faire sauter justement ces verrous-là pour essayer d'améliorer les choses.
Oui, pour le télétravail, donc vous dites que c'est bien pour la mobilité, mais est-ce que c'est aussi bien pour la créativité? Parce que normalement, on pense que les bonnes idées, les innovations, ils sont créé quand les gens sont ensemble quelque part. Donc là, c'est différent. Tout le monde, pas tout le monde, mais les gens peuvent rester chez eux. Donc peut-être il y a un problème socialement.
Là, il est clair que l'accélération du progrès maintenant entraîne une délitation terrible du lien social. Je vous parlais de ce robot pizzaïolo dans un instant. Ça veut dire que vous allez manger dans un restaurant où il n'y a plus de serveur, où il n'y a plus de cuisinier, où vous n'avez pas l'occasion de parler véritablement avec quelqu'un. Et c'est comme ça, à tout point de vue. C'est vrai que très souvent, la créativité, les idées viennent de réunions entre collègues, et les nouvelles méthodes, le développement de la digitalisation est en train d'empêcher, de freiner très fortement, en effet, ce genre de choses, et même, je vais dire, l'existence du lien social en général.
Donc, serait-il pas important de créer des... comme des... Il y en a déjà des creative apps où les gens sont ensemble, mais pour vraiment avoir cet ensemble, il faut aussi des infrastructures adaptées. Et on a les moyens de le faire, mais il faut créer, par exemple, avoir un café ou quelque chose pour avoir un truc plus social, non ?
Oui, tout à fait. Je pense que si on développe le télétravail, il ne faut pas que ce télétravail soit à 100% du télétravail. Je pense qu'il y a quand même des réunions entre collègues, des événements sociaux qu'il est nécessaire à maintenir pour cela. Le télétravail, c'est une très bonne chose, surtout pour désengorger les routes, pour favoriser la mobilité. Mais c'est sûr que ça ne remplace pas tout non plus, ça absolument.
Et une peur qu'on entend souvent aussi, c'est le télétravail, c'est on amène le travail à la maison, il y a trop de flexibilité, c'est aussi un point négatif peut-être.
Oui, le télétravail, disons, ça veut dire en quelque sorte que, à moins qu'on ne vive à l'époque de Big Brother comme dans le roman de George Orwell, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Vous n'avez pas une surveillance continue. J'imagine mal l'employeur aller mettre une caméra sur votre ordinateur pour surveiller si vous êtes devant toute la journée. C'est clair, disons que ça pose un certain nombre de problèmes aussi. Il ne faut pas se le cacher. Ça, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas le télétravail, je vais dire, un instrument de remplacement absolu pour tout qui serait un genre de remède miracle.
Est-ce que vous avez une idée comment au mieux encadrer cette pratique ?
Alors, la pratique du télétravail, je pense qu'elle devrait être certainement partielle, comme on en parlait il y a un instant. C'est-à-dire que j'imagine mal que vous passiez 100% de votre temps de travail devant votre ordinateur chez vous à la maison. Il y a quand même, je pense, à mon avis, si ce ne sont pas des surveillances horaires, des obligations de résultats à mettre en application. Vous pouvez très bien être à la maison, vous occuper d'un dossier ou de quoi que ce soit, mais il arrivera quand même toujours à un moment donné où vous aurez un compte à rendre à votre employeur qui va demander, voilà, vous êtes resté une semaine à la maison pour tel dossier, où en êtes-vous ? qu'avez-vous fait? À quel résultat avez-vous pu aboutir? Il y a, je pense, dans le télétravail, une liberté, une facilité de la mobilité qui en ressort, mais il faut véritablement alors l'adjoindre, lui adjoindre des obligations de résultats qui sont palpables, tangibles, vérifiables même.
Oui, voilà, c'est une idée qui est aussi mentionnée dans l'étude de Rifkin. Donc, est-ce que vous avez vu le rapport intermédiaire du rapport ?
Oui, tout à fait. Je l'ai d'ailleurs sous les yeux dans votre studio. Ici, je pense que lorsque le gouvernement a commandé le rapport Rifkin qui a été présenté en novembre 2016, ça a été une excellente chose parce que le Grand-Duché a montré à ce moment-là qu'il préparait l'avenir et surtout qu'il l'anticipait. C'est quelque chose, je dois dire, moi qui suis belge de nationalité, que j'ai toujours beaucoup apprécié ici au Grand-Duché où je travaille depuis 22 ans, c'est de constater que c'est un pays qui s'est toujours préparé au bouleversement, qui s'est préparé au changement. On l'a vu dans la crise sidérurgique des années 60-70, où on a reconverti tout doucement, de manière pratiquement indolore d'ailleurs, l'économie au secteur des services, au secteur des banques, pendant que d'autres régions sidérurgiques allaient droit dans le mur, comme la région d'Attu en Belgique ou comme le nord de la Lorraine. Donc le rapport Rifkin, je pense qu'il est arrivé au bon moment et qu'il est absolument nécessaire de le concrétiser pour préparer le Grand-Duché à son évolution des démographique. Parce que le rapport Rifkin, il commence surtout comme ça. Et il dit, voilà, écoutez, en 2050, le Grand-Duché va avoisiner, si pas dépasser, les 800 000 habitants sur un territoire qui est quand même tout petit. Et donc, finalement, je pense qu'il est urgent de le mettre en application et qu'il est très bien aussi de l'avoir commandé pour anticiper ce qui va inévitablement arriver.
Franz Clément, je vous remercie.
Merci aussi.
Invité beim Maxipage wo den Soziolog Franz Clément, den sich mit dem Thema Digitalisierung von der Arbeitswelt beschäftigt. Ein Blick auf die Straßen, da geht den Auto und Pann auf der Arla A6 Richtung Stadt, für der Sortie Stengefort, auf der Pannenspur aufpassen auf den, und aufpassen noch weiterhin, wenn es dem Accident auf der Arla A6 Richtung Belsch, das geht ja für der Sortie Straßen. Den hast zwar geraumt, mit die 3 Kilometer Stau lesen sich lo am Moment nehmen Louis ab und dann, man noch ein Automobilist, den die melden, dass ein Kamion pannas ob der N11, kurz Hanna Gonnering, Richtung Waldhaft, da gibt es noch keine Entwarnung, und du hast noch immer eng Bund blockiert.